nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Le mardi 20 mars 2012, l'Institut de France accueillait la cinquième conférence du groupe interacadémique pour le développement, le GIDE, sur le thème du développement scientifique en Méditerranée. Ces conférences précédentes ont porté un regard prospectif sur l'avenir du développement scientifique en Méditerranée et Sharaf Eddine Fkiberada, architecte expert, a quant à lui évoqué pour cette année 2012 l'accélération de l'urbanisme sur notre planète. Il nous fait aujourd'hui le plaisir d'être l'invité de Canal Académie. Monsieur Berada, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc architecte au Maroc, mais vous êtes également vice-président de Kobati International et président du comité de suivi des organisations internationales non gouvernementales accréditées auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. En quoi était-ce important pour vous de participer à cette réflexion, donc, organisée par le GIDE sur le monde méditerranéen ?
Écoutez, l'intérêt que porte le GIDE au monde méditerranéen m'interpelle en tant que méditerranéen. L'intérêt que porte ce faisceau de compétences que regroupe le GIDE m'intéresse énormément. Et puis, j'ai l'espoir que dans la recherche scientifique, dans les préoccupations scientifiques du GIDE, la dimension urbanisme puisse trouver sa place et non la dimension urbanisation.
Donc vous faites cette distinction entre l'urbanisation et l'urbanisme. Sur quel point vous appuyez-vous pour différencier ces deux notions ?
Alors, tout simplement parce que l'urbanisme a doucement mais sûrement glissé vers la notion d'urbanisation qui aujourd'hui fait davantage référence à des notions de croissance démesurée, à des notions de développement de villes incontrôlées, à un mal-vivre, alors que les fonctions premières de l'urbanisme, c'est justement la capacité de répartir une population de manière harmonieuse sur un territoire urbain. Donc, je pense qu'il faut réhabiliter l'urbanisme et dire haut et fort que l'urbanisation est une vision réductrice. En tout cas, elle fait appel à la spéculation foncière, à des problèmes de circulation, à des problèmes de logement, etc., etc.
Et donc, vous voudriez que la notion d'humain soit plus au centre de la ville ?
Tout à fait. L'homme est au centre de ces problématiques parce que les villes sont les réceptacles des problématiques écologiques, sociales, économiques. Vous savez que aujourd'hui, le mode de vie urbain est devenu dominant et les villes vont continuer à s'accroître. Et je considère que si on leur porte l'intérêt qu'elles méritent, elles pourraient devenir des opportunités extraordinaires et un levier extraordinaire dans une dynamique de développement durable, de développement véritablement durable et non pas de croissance qui n'est pas le développement.
Monsieur Berada, dans votre conférence, vous avez voulu appuyer sur un point, c'est cette notion de ville éducatrice. Alors qu'est-ce que cela englobe pour vous comme qualité première que doit avoir la ville aujourd'hui ?
Écoutez, tout d'abord, la ville a son origine, on l'oublie peut-être un petit peu, c'est la ville qui a civilisé le monde. C'est la ville qui a fédéré des êtres humains. Au départ, c'était un point d'eau. Les villes sont nées au fil de l'eau, la notion de ville. Les gens se sont regroupés autour d'un point d'eau. Et puis, des notions de partage, de solidarité, d'urbanité se sont mises en place avec les strates du temps. Et donc, la civilisation est née dans les villes. À partir de là, la ville abrite aussi les savoirs, la connaissance, la recherche. Et donc, elle a cette dimension éducatrice qu'on ne trouve que dans les villes. Mais il y a des différences dans les villes, malgré qu'elles aient cette particularité de lieu du savoir, de lieu de science, de lieu de civilisation. les villes étant devenues aujourd'hui plus des lieux d'économie, des machines de la croissance, ont perdu un peu ce caractère, puisque c'est la finance qui est venue remplacer ou escamoter un petit peu cette dimension éducatrice de la ville. Et donc, nous avons des villes à plusieurs vitesses. Nous avons la ville utile, la ville inutile, la ville où il y a des citoyens, la ville où il y a des citadins, c'est-à-dire des gens qui sont venus chercher du travail ou qu'on a amenés pour travailler, pour augmenter la productivité.
Et d'ailleurs, vous avez eu cette belle expression, vous parlez des villes comme des caisses enregistreuses.
Tout à fait, parce que ce sont des coffres-forts économiques. C'est la ville qui produit, qui génère de la richesse. Mais cette richesse doit profiter à tous. Et vous avez aujourd'hui des villes qui génèrent des moyens financiers extraordinaires, mais paradoxalement, ils génèrent de la pauvreté. Les gens les plus pauvres, on les trouve dans les villes. Vous savez, les gens dans beaucoup de villes, et notamment dans les pays du Sud, beaucoup de citoyens ont quitté la pauvreté rurale pour se retrouver dans la misère urbaine.
Mais alors, quelles sont aujourd'hui, Monsieur Berada, les problématiques auxquelles les villes méditerranéennes doivent répondre? Vous avez parlé de l'afflux de la population, de cette notion de ville où on travaille et ville dortoir. Mais quelles sont aujourd'hui, peut-être spécifiquement en Méditerranée, au Maroc, les problématiques aussi auxquelles ces villes sont confrontées en 2012?
Alors, les villes, la Méditerranée a cette particularité, c'est d'avoir beaucoup de dénominateurs communs. Les villes de la Méditerranée, les villes du sud de la Méditerranée, du moins, ont cette particularité d'être bicéphales, dans le sens où on a une juxtaposition entre villes modernes et villes traditionnelles, mais une juxtaposition sans cohabitation. Chaque ville a son rythme. Or, une ville doit générer de la cohérence. Et puis cet accroissement des villes, cette urbanisation démesurée des villes a fait qu'aujourd'hui on assiste à des morceaux de villes plutôt qu'à des villes. Et des morceaux de villes sans lien social. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est créer du lien social, de recoudre ces morceaux de ville pour reconnecter l'humain.
Et il y a aussi, je pense, à prendre en compte les traditions ancestrales des villes anciennes du passé dans ces villes nouvelles.
Vous savez, il y a beaucoup de leçons à tirer de la configuration des villes traditionnelles parce que, ne serait-ce que dans ces villes, nous retrouvons un urbanisme de partage, un urbanisme de mixité sociale. Vous savez que, pour citer que les médinas, vous aviez des formes urbaines ou dans lesquelles vous avez des constructions où les façades extérieures se ressemblaient toutes. Et c'est une implosion de volume. La volumétrie, la richesse, le décor, l'architecture en deuxième peau étaient à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et ce qui faisait que pouvaient cohabiter dans un voisinage immédiat, le riche et le pauvre, sans se gêner. Et il y avait une forme de mixité sociale et d'équilibre. Bien sûr, il ne s'agit pas de reproduire le passé, mais les valeurs de l'urbanisme moderne sont suffisamment importantes pour pouvoir apporter des réponses aux équilibres de la ville. Et un urbanisme efficient, c'est un urbanisme qui a des limites. Imaginez qu'on urbanise la terre entière, ça serait un véritable cauchemar.
Il y a aussi l'importance que vous accordez, par exemple, aux espaces non bâtis. Pour vous, c'est très important, la gestion de ces espaces autres que les logements, que les bâtiments.
Tout à fait.
Vous avez parlé d'une lecture de la ville, c'est-à-dire de cette vision globale de la ville qu'on peut avoir avec ces bâtiments, mais aussi ces espaces de vide. Alors, en quoi ces espaces non bâtis sont-ils importants pour le cœur d'une ville?
Écoutez, une ville, comme j'avais dit, est faite d'espaces non bâtis et d'espaces bâtis, c'est-à-dire de vide et de plein. Et s'il n'y a pas les vides, vous ne pouvez pas faire la lecture des pleins. Imaginez que tout est plein, vous n'avez aucune espèce de lecture. Et les vides ne sont pas le négatif des pleins. Ils ont un rôle essentiel. Les vides, ce sont les espaces communs que l'on partage, c'est la place, la rue, le square, le trottoir, les espaces verts, les espaces plantés, les espaces de jeu, les espaces où on met des fontaines, les cours, etc. Et c'est extrêmement important. C'est grâce à ces vides que la ville peut respirer. C'est grâce à ces vides que vous pouvez avoir des fenêtres. Donc, il y a des prospects, il y a des normes. On sait aujourd'hui calculer les besoins en mètres carrés d'espace vert, par exemple, dans une ville. On sait que, par exemple, un équilibre pour avoir un couvert végétal signifiant dans une ville, c'est 10 mètres carrés d'espace vert par habitant.
Vous aviez aussi insisté sur la notion de ville santé. Alors là, dans ce domaine-là, en quoi la ville a son rôle à jouer ?
Écoutez, la ville et la gouvernance de la ville, d'abord, vous savez que l'origine de l'urbanisme est fondée sur une démarche hygiéniste. On a arrangé les villes, on a ordonné les villes parce qu'il fallait faire la collecte des déchets, il fallait permettre aux gens de respirer, etc. Donc, le fondement de l'urbanisme sont d'abord l'hygiène et donc la santé. Alors, pour revenir aux villes santé, la ville santé, c'est la santé considérée dans sa plus large dimension et non pas dans la maladie. Vous savez que dans les prérogatives de la gouvernance des villes, il y a un certain nombre de paramètres de santé sur lesquels veille la gouvernance des villes. Le maire veille sur le service d'hygiène, veille sur la collecte des ordures, veille sur un certain nombre de choses. Et les villes santé, c'est une réflexion, action, sur le fait que comment une ville peut contribuer dans son aménagement, dans son urbanité, à garantir plus de santé à ses citoyens. Et vous savez que, à titre d'exemple, l'OMS a fait une étude sur les problèmes de santé en milieu urbain et les villes qui ont simplement dessiné des parcours santé, c'est des parcours de promenade, qui permettent aux personnes, aux habitants des villes, quel que soit leur état de santé et leur âge, de pouvoir simplement marcher, eh bien, les maladies cardiovasculaires ont baissé de 30%.
D'où l'importance de développer ces espaces verts, d'ailleurs.
Tout à fait, et de s'inscrire dans une dynamique de ville santé. Aujourd'hui, les villes affichent une image attrayante, parce que les villes sont aussi les lieux de l'investissement. Et j'espère que les investisseurs, aujourd'hui, iront dans les villes qui offriront vraiment un bien-être et un vivre ensemble, que ces investisseurs, dans leur programme de communication, pourraient même utiliser. Et je suis prêt à les aider, puisque dans un intérêt commun, de gagnant-gagnant, de dire, moi je m'installe parce que cette ville, elle offre à ses citoyens un certain nombre de lieux de bien-être, elle leur permet d'être dans une ville santé, dans une ville éducatrice, etc. Ça peut être un faire-valoir aussi pour l'investissement.
Vous voulez dire éviter quand les gens viennent habiter en ville parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont amenés à vivre dans une grande ville pour leur travail ou pour des raisons peut-être de logistique, de transport. Tout ça, pour vous, doit être gommé. Les gens doivent aussi pouvoir venir habiter dans la ville par plaisir.
Écoutez, je ne suis pas dans une vision idyllique de la ville. Je vous parle en tant que praticien sur le terrain, en tant que membre de plusieurs réseaux internationaux qui s'intéressent aux problématiques de la ville. Je dis simplement que ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de volonté et de volonté politique. Et à condition que dans cette volonté politique, le citoyen soit associé.
Il y a un autre point sur lequel je voudrais vous interroger. C'est cette notion et c'est cette place que doivent occuper les universités dans les villes. Vous aviez cette expression de ville apprenante, une expression canadienne.
Tout à fait.
Donc cette notion de ville apprenante vous est chère, c'est-à-dire quel poids doit avoir l'université, non plus sur les citadins, mais sur les citoyens, alors.
Écoutez, une vérité simple aussi, c'est que les universités sont implantées dans les villes. Donc, ce sont des lieux du savoir qui sont implantés dans les territoires urbains. Ce sont des lieux qui permettent à ceux qui ont la chance d'avoir accès à l'école et à l'université après, de pouvoir acquérir un savoir, un diplôme, etc. Je suis en colère de voir que ces universités tournent le dos à la ville et la ville tourne le dos à l'université. Je ne comprends pas pourquoi l'université ne s'ouvre pas à la ville et pourquoi la gouvernance des villes ne va pas vers l'université où elle va disposer d'un potentiel non négligeable de compétences, aussi bien au niveau des professeurs, des enseignants que des étudiants, qui peuvent plancher sur les problématiques contextualisées de chaque ville où il y a des universités implantées. C'est pour ça que je parle de ville éducatrice et d'université à ciel ouvert. Pourquoi, par exemple, un citoyen n'a-t-il pas le droit d'aller à l'université simplement par curiosité intellectuelle, écouter une sommité dans un domaine, apprendre quelque chose? Pourquoi l'université serait réservée aux seuls détenteurs du bac ou d'autres diplômes? Pourquoi un citoyen lambda ne pourrait pas aller dans un amphithéâtre écouter un cours de philosophie ou un cours de sociologie ou un cours de sciences? Je pense que c'est parfaitement faisable. Les universités et la gouvernance de la ville sont tout à fait capables d'organiser la logistique qui permette aux populations d'accéder à l'université, comme le citoyen peut aller à un musée ou peut aller dans un théâtre ou peut aller dans une galerie d'art.
Et dans cette notion d'éclairer donc le citoyen, quel rôle vous voudriez confier par exemple aux scientifiques, aux architectes, à tous ceux qui peuvent justement ouvrir la ville aux citoyens ?
Mais écoutez, je parlerai d'abord des architectes, puisque c'est mon métier. Vous savez, le symbole est très fort. Quand vous construisez une université, que vous l'entourez d'une grille de défense, c'est pas neutre. Déjà, vous marquez que c'est un territoire qui est réservé pour certains et pas d'autres. Pourquoi les limites de l'université ne seraient-elles pas uniquement un couvert végétal? Et les architectes, les paysagistes et les urbanistes peuvent inciter, par leur geste architectural, le citoyen à vouloir aller, à ne pas s'auto-limiter la pratique de la ville. La ville lui appartient au même titre que tous les autres citoyens.
Un petit mot peut-être sur cette association dont vous êtes vice-président, Kobati International. Quel est son rôle aujourd'hui dans cet urbanisme ?
Alors, Kobati International est une association de professionnels et non une association professionnelle. Alors, la différence est que nous ne sommes pas une corporation. Nous sommes une association qui regroupe des professionnels de pluridisciplinaires et d'horizons géographiques différents. Et c'est la richesse de notre association. Nous sommes quelques 5000 membres répartis dans 12 pays, aussi bien en Europe qu'en Méditerranée qu'en Afrique. Et nos objectifs sont de nous intéresser, de travailler, de mener des réflexions, actions sur des problématiques comme l'urbanisme, des problématiques de l'eau, des problématiques de la mobilité, du transport, etc. Et tout cela dans un espace de neutralité. Et parallèlement, nous voulons assurer ce lien entre la puissance publique et le citoyen pour permettre aux citoyens d'avoir accès à la connaissance, de ne pas appréhender les problèmes, la problématique de la ville sous un angle techniciste, mais d'abord sur un angle sociétal, un angle de partage, un angle du mieux vivre ensemble.
Eh bien, c'est sur cette belle notion qui, j'espère, à l'avenir, se mettra de plus en plus en place que nous allons nous quitter. Monsieur Berada, je vous remercie de votre présence.
Merci à vous.
Au revoir. Thank you.